Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, une curieuse du mouvement qui anime les êtres à poils et à plumes nous accompagne. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Bonjour, je m'appelle Fleur Daugé, je suis écrivaine, journaliste et à la base je suis éthologue. Donc pendant quelques années, j'ai travaillé dans des projets de conservation de la nature avec des chimpanzés, des tortues, des perroquets. Et puis je me suis mise à l'écriture, donc ça fait maintenant 15 ans, ça m'étonne moi-même quand je dis ce chiffre, mais oui, ça fait bien 15 ans que j'écris et que je vis de l'écriture. C'est une grande chance. Et j'écris beaucoup sur la nature, pas seulement, mais j'écris quand même beaucoup sur la nature, les animaux, les plantes et tout ce qui s'en suit. J'ai un parcours un petit peu atypique. En fait, après le bac, j'ai fait un BTS de commerce international, donc ça m'a fait comprendre ce que je ne voulais pas faire dans la vie. Et je crois que c'est aussi important de savoir ce qu'on ne veut pas faire dans la vie pour réussir à trouver sa voie. Le côté international, j'ai toujours beaucoup aimé, mais par contre, le côté commercial... c'était pas du tout mon truc. Donc je me suis réorientée en psychologie et c'est là que j'ai découvert l'éthologie. Donc, l'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux et aussi des humains, dans une moindre mesure. Et souvent, les éthologues passent par des études de biologie et il y a une petite branche en France qui est possible de saisir en passant par la psycho. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait psycho avec une option en éthologie en licence à l'époque et puis après, ben, j'ai enchaîné avec... ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise et un DESS, aujourd'hui c'est l'équivalent d'un master. Et j'ai voulu me spécialiser dans la conservation des espèces menacées, puisque c'est un gros souci depuis pas mal de temps. On en parle vraiment beaucoup maintenant. Moi, quand j'étais étudiante, il y a déjà pas mal de temps maintenant, parce que là j'ai 45 ans, on en parlait un petit peu moins. Hein. C'était là, il y avait plein de gens qui s'intéressaient à la nature et à sa protection, mais c'était pas autant dans les médias et dans les livres au point où ça allait aujourd'hui. Donc je me sentais un petit peu souvent en minorité, alors que maintenant c'est des sujets, heureusement, qui ont pris beaucoup de place. Plusieurs années dans différents pays, différents projets, j'ai eu l'opportunité de travailler comme journaliste à la Salamandre, parce que j'avais pas fait d'études de journaliste, j'ai appris sur le tas. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'écriture, et après quelques années à la Salamandre, j'ai eu envie d'écrire des livres, et ça fait maintenant presque 10 ans que j'écris des livres, un peu plus même. J'aime beaucoup, évidemment, marcher dans la nature, me poser au bord de l'eau, nager, par exemple, dans toutes sortes d'eau, salée ou non salée. Et puis, mes passions, c'est la lecture. Hein. Je pense que quand on écrit, on est forcément un lecteur aussi. Je crois que ça doit être peut-être très rare ou même inexistant des gens qui aiment écrire et qui n'aiment pas lire. J'aime beaucoup l'art aussi. Quand je peux, je passe du temps dans les musées. Et c'est souvent les tableaux qui représentent la nature ou les animaux qui m'attirent le plus d'ailleurs.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Saurais-tu le décrire en 3 mots, un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
Alors le vivant, et je dirais même le vivant et le non-vivant, parce que je pense que il y a aussi les montagnes, les rivières, c'est à la fois un objet de curiosité très scientifique, très rationnel, et en même temps, un objet de spiritualité. parce que pour moi, c'est l'incarnation du divin. C'est une vision animiste de la nature, je dirais que les âmes ne sont pas seulement dans les êtres humains, mais peuvent aussi être dans les animaux, dans les plantes, et aussi, pourquoi pas, les pierres, les rivières, les torrents, les montagnes. Je pense que ce n'est pas du tout incompatible d'être à la fois scientifique et spirituel sur ces sujets-là. Au contraire, il y a des passerelles entre les deux. Donc c'est important d'avoir cette vision globale des choses pour entrer dans une philosophie de vie, en fait, par rapport à la nature. Parce que l'être humain, aujourd'hui, je pense qu'il a besoin de ça, de se reconnecter au fait qu'il est un animal, au fait qu'il est la nature, qu'il fait partie de la nature. Et je crois que la science nous aide à ça et que la spiritualité aussi peut nous aider à ça. Un goût, par exemple, celui des framboises qu'on cueille dans le jardin. La Madeleine de Proust, pour moi, ça me replonge dans le jardin foisonnant de mon grand-père en Normandie où je cueillais d'énormes framboises. En tout cas, à l'époque, elles me semblaient énormes parce que j'étais toute petite. Une odeur, j'ai pensé tout de suite au pétrichor. Donc, c'est l'odeur de la terre après la pluie ou du sol en général, même en ville, qui a cette odeur particulière après la pluie, qui est envoûtante, je trouve. Après, une couleur, bien sûr, là je vais rester assez bateau, je pense, je vais dire le vert et surtout les nuances de vert. Pour moi, le vivant, c'est le vert parce que les plantes composent 99% de la biomasse sur la Terre. La majorité d'entre elles sont vertes et puis elles ont des nuances infinies de cette couleur. Je pense qu'aucun peintre ne pourra reproduire un jour autant de nuances de vert que celles qu'on peut voir dans la nature. Là, rien qu'en regardant par la fenêtre, en te répondant, j'en vois déjà des dizaines différentes. Pour la texture, je dirais la sensation des mousses sous les pieds. Chez mes parents, il y a beaucoup de mousses par terre parce que le sol est très acide et j'adore marcher pieds nus sur les mousses. Je trouve que c'est encore plus agréable de marcher sur les mousses que de marcher sur l'herbe parce que ça a une douceur, une espèce de mollesse aussi, de souplesse qui est très très agréable. Et puis un son, je dirais que me plaît le plus dans la nature, c'est justement l'absence de son, je dirais l'absence de son mécanique d'origine humaine en fait. J'étais pendant ces vacances au Québec, là on est allé dans un parc national assez éloigné de la ville où il n'y avait pas du tout de réseau et il n'y avait plus non plus les bruits de la ville, les bruits des routes. Parce que bon, moi j'habite dans les Pyrénées, donc je suis près des montagnes et en montagne, souvent, on entend encore de loin le bruit de la route. Et là-bas, on n'avait plus ça. Et c'était un bonheur énorme. Et je pense aux premiers habitants, aux premières nations américaines qui vivaient avec leur canoë au bord de ces lacs-là où on était et qui ne connaissaient pas les bruits des moteurs. Je pensais à la vie qu'ils avaient à l'époque et ça faisait vraiment envie. Cette absence de bruit motorisé, c'est quelque chose, je pense, dont on aurait plus besoin, quoi, pour retrouver un peu de calme aussi à l'intérieur de nous.
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Nombre de mes livres sont destinés aux enfants, de 2 ans jusqu'à l'adolescence. J'écris aussi pour les adultes, mais un petit peu moins souvent. J'essaye pas d'éveiller la curiosité parce qu'elle est là déjà chez les enfants. J'essaye plutôt de la nourrir, je dirais, d'informations qui vont titiller justement l'intellect de l'enfant et son regard particulier. En me remettant souvent dans la peau de l'enfant que j'ai été, j'essaye de ne pas l'oublier. J'ai la chance d'avoir beaucoup de souvenirs de mon enfance et beaucoup de souvenirs de ce que je ressentais à l'époque et je m'en sers beaucoup. L'enfant, souvent, a un contact ingénu, très direct avec la nature, parfois cruel d'ailleurs aussi. J'essaye, ouais, par l'humour, par l'étonnement, par des exemples rigolos aussi, de rapprocher l'enfant de la nature, parce que malheureusement, aujourd'hui, il est souvent très éloigné, ne serait-ce en classe. Quand on emmène nos enfants le matin à l'école, on les laisse dans un bâtiment, on les laisse pas dans un jardin ou dans une forêt, bien que ça existe, les écoles en forêt, mais il y en a encore très peu. Et donc, pour moi, le livre, c'est une façon de les ramener vers la nature, de faire une sorte de lien comme ça. Souvent d'ailleurs, avec mes filles, quand on est dans la nature, je leur dis « Ah, vous vous souvenez dans le livre ce qu'on a vu ?» Et bien, vous voyez, là, on le voit en vrai. Et quand on lit les livres, je leur dis, vous vous souvenez l'autre jour, quand on était dans la nature, on a vu ci, on a vu ça. Donc, je le fais dans ma vie quotidienne avec mes filles. Je ne sais pas si les parents lecteurs le font aussi avec leurs enfants. On est dans la nature, on passe, ou même quand on est en ville, il y a beaucoup d'animaux et de plantes à côté desquels on passe sans les voir, quand on est adulte ou même quand on est enfant. Et une partie de mon travail, c'est d'essayer d'éveiller ce regard-là. Qu'on ait ce regard, qu'on prête attention, qu'on s'arrête un instant, pour créer du lien, en fait, avec ce qu'on voit, avec ce qui est tout autour de nous et qui soit vivant ou non vivant.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Je pense que l'humain, ce qui peut apporter à l'ensemble du vivant, c'est déjà de se reconnaître comme faisant partie de ce vivant-là. Aujourd'hui, on est héritier, en tout cas en Occident, je ne parle pas forcément pour toutes les cultures, même si ça se retrouve chez d'autres cultures aussi. Notre histoire religieuse et philosophique, donc c'est pas rien, hein. Ce sont des grands mots, nous a éloignés de la nature. Puisque aussi bien la religion que les philosophes comme Platon notamment, qui ont toujours une influence sur notre façon de penser, pour le meilleur hein, bien sûr, mais aussi pour le pire, nous ont extraits de la nature en opposant nature et culture par exemple. Du côté de la religion, ben, en disant à l'être humain qu'il était au-dessus de la création, qu'il était fait à l'image de Dieu et que la création était là pour le servir. Ces façons de penser-là, même quand on n'est pas religieux ou pas philosophe aujourd'hui, on en est imprégné encore aujourd'hui. Par le simple fait, par exemple, de dire animaux et de dire humains, vous voyez, de séparer ces deux mots-là, C'est déjà un souci quelque part parce que l'humain est un animal. Ça, il y a encore plein de gens qui ne veulent pas l'admettre, alors que c'est une évidence. Que sommes-nous d'autres que des animaux ? Si nous ne sommes pas des animaux, qu'est-ce que nous sommes ? C'est une question que chacun peut se poser. Je ne donnerai pas de réponse aujourd'hui autre que bah, si nous sommes des animaux. En tout cas, c'est bien ce que la biologie nous dit. C'est vraiment une démarche d'humilité que l'être humain peut apporter aujourd'hui à la nature. Et aussi, bien sûr, à lui-même, puisque nous sommes la nature. Donc, le jour où nous la respecterons, nous respecterons nous-mêmes. Non seulement notre relation à la nature, aux animaux, aux plantes ira mieux, mais aussi notre relation aux autres êtres humains, aux autres cultures. Parce que nous avons aussi besoin vraiment de nous aimer nous-mêmes dans toute notre diversité. Je crois que c'est le grand problème que l'humanité a à résoudre de tout temps, mais spécialement aujourd'hui. Et j'espère que nous allons vers un mieux. Nous y allons très lentement. Mais je suis optimiste, je pense que nous allons de plus en plus vers ça, vers cette reconnexion à ce que nous sommes vraiment. For through it all, the sticks and stones rain down. Hear that mud crack in his sleeping shack, the old man river.
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM, porté sur le vote en Suisse de l'initiative populaire pour la biodiversité. En Suisse, la diversité du vivant et son intégrité sont regardées de près. Un tiers des espèces animales et végétales sont menacées ou déjà disparues. La moitié des milieux naturels sont menacés. Ce constat est dressé sur la base des inventaires naturalistes et des études scientifiques. La biodiversité, à savoir la diversité de l'ensemble des êtres vivants et des milieux naturels, a décliné en Suisse, comme sur l'ensemble de notre planète. Les paysages et la physionomie des localités sont eux aussi sous pression. C'est pourquoi la Confédération et les cantons protègent les biotopes, les supports de vie, les espèces menacées ainsi que les paysages et localités de grande valeur. Ils prennent soin des zones protégées, encouragent la biodiversité, y compris dans l'agriculture. La Confédération investit chaque année 600 millions de francs dans la conservation de la diversité des espèces. Elle met en œuvre un plan d'action pour la promotion de la biodiversité avec les 26 cantons qui, je le rappelle, sont des États fédéraux autonomes. Pour les auteurs de l'initiative Biodiversité, sujet de l'épisode, ces mesures ne vont pas assez loin. Ils veulent davantage protéger la nature, le paysage et le patrimoine bâti en donnant plus de moyens pour la biodiversité et en protégeant plus de surfaces. Ils entendent notamment responsabiliser davantage les cantons, afin qu'ils préservent les paysages et la physionomie des localités. L'initiative vise par ailleurs à conserver intacts les éléments caractéristiques des biotopes, paysages et localités dignes de protection, et aménager la nature, le paysage et le patrimoine bâti également, en dehors des zones protégées. Une votation populaire sur l'initiative biodiversité est donc prévue pour le 22 septembre 2024. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, l'initiative va trop loin. Les biotopes, paysages et localités de grande valeur sont déjà protégés et la biodiversité est déjà encouragée. L'acceptation de l'initiative entraverait trop fortement des intérêts importants, en particulier l'approvisionnement en énergie, l'agriculture et le développement de l'habitat selon eux. Pour le comité d'initiative, la destruction de la nature est alarmante et il faut agir maintenant. L'initiative apporte un contrepoids en obligeant la Confédération et les cantons à en faire davantage pour la biodiversité. Mais rappelons qu'une initiative populaire est portée par les citoyens et que depuis 1987, il existe la possibilité du double oui. L'initiative populaire et le contre-projet peuvent être acceptés simultanément. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Alors, c'est un hasard, mais j'ai vécu en Suisse pendant 3 ans et demi, donc j'en ai vu passer des initiatives diverses et variées, même si je ne pouvais pas voter à l'époque là-bas en tant que Française. Mais déjà, je voudrais dire que ce système de démocratie directe est très intéressant, c'est vraiment très rare dans le monde que ce soit véritablement les citoyens qui votent directement pour les projets sans passer par des députés comme nous le faisons nous, par exemple. Donc on entend vraiment la voix du peuple, quelque part, dans ces votations-là. Le genre de votation qu'on propose, c'est qu'il y a de plus en plus d'êtres humains qui se rassemblent et qui se mettent en branle pour qu'on respecte véritablement la nature et qu'on la protège véritablement. Je dis véritablement parce que souvent, les initiatives mises en place par les gouvernements, que ce soit en France ou en Suisse ou ailleurs, c'est souvent des pansements sur des jambes de bois. On fait semblant, hein, bien souvent, de s'intéresser à la nature. Hein. On le voit bien en France. Hein. Notre président est spécialiste de ce genre de choses, de faire des grandes déclarations. Et puis, dans les faits, la nature n'est pas du tout respectée. Quand on voit qu'on tue des loups, par exemple, alors que c'est une espèce protégée au niveau européen, on continue à tuer des loups régulièrement, alors que ce n'est pas du tout dans le sens de ce qu'on devrait faire aujourd'hui pour protéger une nature qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'une nature qui fonctionne bien, elle a besoin de prédateurs, de grands prédateurs tels que les loups. Je suis curieuse de voir quel sera le résultat en Suisse, parce que il y a en Suisse deux courants. Il y a ces gens qui disent mais ça va entraver l'activité économique, on protège déjà, etc. Alors que d'autres personnes pensent que ce qu'on fait, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait vraiment faire pour que la nature puisse se reconstituer. Hein, quand on dit qu'un tiers des espèces sont menacées, la moitié des milieux, c'est vraiment catastrophique. Donc ça veut bien dire qu'on ne fait pas assez. Et souvent, les votes sont un peu le reflet de ces deux tendances-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent protéger la nature, mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent au profit, à la croissance encore aujourd'hui. Hein, on est encore dans ce type de pensée-là. Il y a vraiment beaucoup de friction entre les gens qui veulent progresser et aller vers une société plus respectueuse de la nature, qui consomme moins, qui produit moins, et puis des gens qui continuent à vouloir rester dans un modèle ancien, en fait, qui n'a plus lieu d'être, qui essouffle notre planète. Et si celle-ci ne passe pas, il y en aura d'autres, parce que j'en ai vu passer de nombreux. Il y en a beaucoup qui échouent, hein, de ce genre d'initiative en Suisse, et certaines passent. Nous verrons.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
Alors, j'ai un livre qui vient de sortir il y a très peu de jours, là, qui s'appelle Abyss, exploration d'un nouveau monde. C'est sorti chez Actes Sud Jeunesse, et c'est pour les enfants à partir de 8-9 ans. Donc, je les emmène dans un monde complètement méconnu et même inconnu, au fin fond des profondeurs abyssales de notre planète, puisque c'est les grands fonds marins, ce sont vraiment les endroits de notre planète qu'on connaît encore le moins. C'est illustré par Sand Thomen, avec qui j'ai travaillé sur quelques autres livres aussi chez Actes Sud Jeunesse. On a pas mal travaillé ensemble. Et c'est assez formidable le résultat qu'il a pu obtenir. On est vraiment dans le sombre et la lumière, et c'est vraiment ça les abysses. On est dans le noir le plus total avec ces animaux qui sont bien souvent lumineux, très étranges. Et puis on découvre aussi comment on connaît tous ces animaux-là, comment on les observe avec tous les robots et les sous-marins qu'on envoie, qu'on essaye d'envoyer dans ces profondeurs-là. D'autres recommandations, je dirais. Il y en a une, c'est un livre de Mélusine Martin qui s'appelle « Reconnectez-vous à la nature ». Ça paraît assez basique comme titre. Mais en fait, c'est très étonnant comme livre. Il étudie les relations entre les sociétés et leurs milieux et comment ils s'influencent mutuellement. Donc, comment les sociétés humaines influencent la nature autour d'eux, mais aussi comment la nature dans laquelle elles vivent les influence.
Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. Et t'attends quoi ?
Car n'est-ce pas le mythe de la dignité exclusive de la nature humaine qui a fait essuyer à la nature elle-même une première mutilation dont devraient inévitablement s'en suivre d'autres mutilations ? On a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus. Jamais mieux qu'au terme des 4 derniers siècles de son histoire, l'homme occidental ne put-il comprendre qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il refusait à l'autre, il ouvrait un cercle maudit et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes d'autres hommes et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège d'un humanisme corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour propre son principe et sa notion.
Dis-moi, mais j'attends quoi ?
Tu y as pêché où ? Baobab, acajou.
Voici que cet épisode a virevolté avec une amoureuse des animaux à pattes et à jambes prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle fraîchement cueillie.
Palissandre, mais les œufs tremblent être noyés.